Chapitre 16 du verset 16 au verset 18, un texte bien connu. La Bible dit ceci: comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous et s'est mise à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, est-ce qu'on peut continuer? Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fut cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et à l'heure même, elle sortit. Amen. Pouvons-nous acclamer la parole du Seigneur? Pouvons-nous acclamer la parole du Seigneur? Si vous me permettez, bien-aimés, dans les moments qui vont suivre, je vais vous parler d'un sujet important dont peut-être le titre, quand vous allez le voir, ne va pas sembler vous dire quelque chose, mais par le temps que je termine, vous allez comprendre ce que l'Esprit veut nous dire. Le sujet de mon message ce matin, c'est « Change ton atmosphère ». Quelqu'un dit « Change ton atmosphère ». Quelqu'un dit « Change ton atmosphère ». C'est quelque chose sur lequel le Seigneur a commencé à me parler depuis un certain temps, et j'aimerais prendre le temps de vous partager. Mais la lecture de ce texte que nous avons fait dans Actes chapitre 16, du verset 16 à 18, nous démontre quelque chose d'important. C'est que le nom de Jésus est un nom puissant. Quelqu'un dit amen. Le nom de Jésus n'est pas seulement un nom qu'on cite comme une formule magique, mais le nom de Jésus est un nom important. C'est le nom par lequel les malades sont guéris. C'est le nom par lequel les démons tremblent. Lorsque nous prononçons ce nom, les circonstances changent. Lorsque nous prononçons ce nom, les montagnes peuvent bouger. Le nom de Jésus n'est pas simplement un nom comme le sel qu'on met sur la nourriture, mais le nom de Jésus est un nom qui transforme. Et le livre des Actes des Apôtres n'est pas seulement un livre qui nous montre des gens à l'évangéliser, mais c'est un livre qui nous montre des hommes qui sont capables de bouleverser leur génération à cause de la puissance du nom de Jésus. C'est parce qu'ils avaient ce nom qu'on pouvait dire à la fin du premier siècle que les hommes qui ont bouleversé le monde sont venus ici, et on dit que un tel les a reçus. Et j'aimerais vous dire que nous sommes le peuple qui porte ce nom-là. Nous portons le nom de Jésus. À cause du nom de Jésus, nous avons la marque d'appartenance à Dieu. À cause du nom de Jésus, nous avons accès au trône de Dieu. Quelqu'un dit amen. Et de la même manière que nous sommes, que ces gens sont partis évangéliser le monde de du premier siècle et porter le nom de Jésus, de la même manière, nous sommes venus ici à Saint-Michel, et depuis que nous sommes venus, les démons tremblent, les sorciers tremblent, parce que nous portons le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Parce que nous portons le nom qui apporte la guérison. Amen. Parce que nous portons le nom qui apporte la délivrance. Amen. Et Paul avait compris qu'il avait avec lui, c'est lui qui est au-dessus de tout. La Bible déclare que Jésus dont nous parlons n'est pas seulement un enfant comme on va fêter à Noël, né dans une crèche, mais la Bible déclare qu'il est le roi des rois, qu'il est le Seigneur des seigneurs, il est le maître de l'univers, l'univers visible et invisible. À son commandement, le démon tremble. À son commandement, la maladie fuit. À son commandement, le cancer tremble. À son commandement, l'univers entier se met à l'obéir. La Bible déclare dans le livre de Colossiens que c'est par lui et pour lui que toute chose existe. L'apôtre Paul a raison de s'écrier quelque part que je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis capable de réussir par celui qui me fortifie. Le nom de Jésus est un secours pour ceux qui sont finis devant les hommes, mais pas devant Dieu. Le nom de Jésus est un nom tellement puissant que c'est le nom qui peut contredire les plans du diable. C'est le nom qui peut contredire les malédictions générationnelles. C'est le nom qui peut contredire ce que les sorciers ont prononcé sur nos vies. C'est à cause de ce nom que nous avons la victoire. Amen. C'est à cause de ce nom que nous sommes assemblés. C'est à cause de ce nom que nous pouvons réussir. Et j'aimerais bien aimer que nous puissions de plus en plus mettre l'accent sur le nom de Jésus. Parce que plusieurs de nos chants ont perdu le caractère sacré du nom de Jésus. Nous chantons beaucoup de chants qui nous parlent que Dieu est bon. Mais nous devons chanter des chants qui disent que Jésus-Christ est puissant, Que Jésus-Christ sauve, que Jésus-Christ délivre, que Jésus-Christ restaure, que Jésus-Christ transforme, que Jésus-Christ libère, que le tombeau est vide, que les démons ont été vaincus. Amen. Et lorsqu'on commence à prononcer le nom de Jésus, lorsqu'on commence à élever ce nom, l'atmosphère change. Nous sommes maintenant transportés dans une atmosphère qui est propice au miracle, propice à la guérison, propice à voir l'intervention de Dieu. Amen. Et la Bible dit que Paul et son équipe et tous les chrétiens de la première génération ont bouleversé le monde, non à cause des moyens technologiques, mais parce qu'ils avaient le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce qu'ils avaient le nom qui est au-dessus de tout nom. Ils avaient le nom de celui dont la Bible dit qu'il est l'agneau de Dieu, préparé par Dieu depuis la fondation du monde. Ils avaient le nom de celui que la Bible appelle Emmanuel, Dieu parmi nous. Quand Dieu rentre en scène, lorsque nous invoquons le nom de Jésus, tout commence à changer, tout commence à être bousculé. Il portait le nom de celui qui est notre avocat. Il portait le nom de celui qui est notre médiateur. Il portait le nom qui est au-dessus de tout nom. Il portait le nom qui fait ployer les circonstances. Il portait ce nom-là. Et lorsqu'un enfant de Dieu porte ce nom-là, les circonstances doivent ployer devant lui. Les événements doivent ployer devant lui. Vous pouvez vivre la résistance, mais tôt ou tard, Dieu intervient. Dieu intervient. Dis à quelqu'un, Dieu intervient. Dis à quelqu'un, Dieu intervient. Dieu intervient. Dieu intervient. Et c'est ainsi que ces chrétiens avaient compris que je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Quelqu'un dit au nom de Jésus. Quelqu'un dit au nom de Jésus. C'est ainsi que les apôtres avaient compris quelque chose, c'est que au nom de Jésus, tout est possible. Et la Bible, notre texte commence en ouvrant une parenthèse. L'apôtre Paul est à Philippe. Et la Bible dit, parce que c'est Luc qui écrit, comme nous allions au lieu de prière. L'apôtre Paul ou Luc, quand il écrit, ne dit pas comme nous allions à la discothèque, comme nous allions à une boîte de nuit, comme nous allions au marché, mais il dit comme nous allions à un lieu de prière. Parce que les chrétiens, comme l'apôtre Paul, avaient compris que le secret de réussite de la vie chrétienne, le secret de réussite dans le ministère, c'est le lieu de prière. Ce n'est pas qui peut vous imposer les mains, ce n'est pas quel titre cette personne apporte, mais c'est l'habitude que vous avez développée vous-même. Comme la Bible dit, entre dans ton lieu secret. Et ton Père qui est dans le lieu secret t'écoute. La force de l'Église primitive et la force du croyant ne réside pas dans la gesticulation dans le culte, mais réside dans l'habitude qu'il a développée d'entrer dans le lieu de prière, de se cacher dans la présence de Dieu, de pleurer devant Dieu avec ses fardeaux. Aujourd'hui, nous avons développé une génération qui court après tout ce qui s'appelle prophète, apôtre. Et vous vous rendez compte que la plupart du temps, vous ne recevez pas parce qu'il y a ce que Dieu fait au travers de son serviteur, mais il y a ce que Dieu fait au travers de ton lieu de prière. La Bible dira plusieurs fois que Paul entra dans la synagogue comme à son habitude. Et j'aimerais ce matin nous inviter à développer l'habitude du lieu de prière. Le pasteur nous citait il y a quelques années, au début de l'année, lorsque nous faisons le temps de jeûne de prière, la citation de cet homme de Dieu anglophone, Ian Bounds, sur la prière, qui disait ceci, que les prières façonnent l'histoire d'une nation. Les prières sont éternelles. Elles survivent à ceux qui les ont prononcées. Le diable ne tremble pas à combien vous connaissez sur la prière. Les démons ne tremblent pas lorsque vous lisez sur la prière. il tremble lorsque vos genoux ploient dans la présence de Dieu. Paul avait le secret de la réussite et des miracles dans son ministère. C'était le lieu de prière. Comme nous allions au lieu de prière. Nous commençons la répétition de louanges par le lieu de prière. Nous commençons les cultes par le lieu de prière. Nous commençons les réunions par le lieu de prière. Là où deux chrétiens se rencontrent automatiquement, nous devons rentrer dans le tabernacle saint, rentrer dans le Saint des Saints, afin d'invoquer la présence de celui qui est capable. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens connaissent l'échec. Plusieurs familles sont en train de se briser parce que nous avons abandonné le lieu de prière. Et je crois qu'il est temps pour nous de revenir au lieu de prière. Deux emplois, c'est bon, mais si le lieu de prière manque chez toi, tout ce que tu fais, c'est mort et caduc. Comme nous allions au lieu de prière. Remarquez que ce n'est pas comme j'allais, mais c'est comme nous. Il y a le lieu de prière individuel, mais il y a le lieu de prière qui est collectif. Il y a le lieu de prière qui est la responsabilité collective du corps de Christ, la responsabilité collective de nous. Nous sommes une génération qui aime tellement les bonbons spirituels, des prédications qui nous disent que tout va aller, des prédications qui nous disent que nous allons réussir, que Dieu nous veut prospère, que Dieu veut que nous soyons guéris, que Dieu veut que nous puissions réussir. Tout cela est vrai. Mais quand tout cela est maintenu par le lieu de prière, quand je parle de lieu de prière, je ne parle pas des petites prières, j'appelle ça des prières arrosoirs, des petites gouttes de prière, mais je parle du lieu où je demeure, tel que la Bible dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, du lieu où je peux rentrer à 5 heures du matin, rester dans la présence de Dieu jusqu'à 8 heures, cherchant la face de Dieu. Je parle de ce lieu que je chéris tellement que je me prive au moins d'une demi-heure de télé, comme ça je peux me lever une demi-heure tôt. Il coûte de garder l'habitude du lieu de prière. Il est facile de perdre l'habitude de rentrer dans le lieu de prière. Quand vous perdez l'habitude, vos prédications deviennent mécaniques. L'église devient mécanique parce que la prière, c'est comme l'huile dans le moteur. Et dernièrement, j'ai donné mon auto à un garagiste et je lui ai dit, fais-moi le changement d'huile. Je roule avec l'auto, je sens que l'auto est en train de forcer. Et le cadran d'huile s'allume. Je dis, non, il a fait le changement d'huile. Finalement, vendredi, j'arrive, je regarde, j'ouvre le moteur, je regarde l'huile, il n'y avait plus d'huile dans le moteur. Quand bien même le moteur de mon auto serait puissant, avec le temps, le moteur se serait brisé. Et plusieurs d'entre nous, nous n'avons plus d'huile dans le moteur. Nous avons gardé la mécanique de la vie chrétienne, mais l'huile qui est la prière est absente. Nous avons gardé la mécanique de connaître les versets bibliques, de pousser des cris de joie. Nous savons exactement dans un chant quand pousser des cris de joie. Nos modérateurs savent exactement comment nous amener à pousser des cris de joie. Mais ce qui fait la force, qui est le lieu de prière, le lieu secret, ce qui coûte aux chrétiens, le lieu où personne ne te voit, cela est devenu absent. Au point où qu'un sorcier peut entrer dans l'église et être à l'aise. À l'aise, à l'aise. Et vous pouvez le voir pendant le culte, quand la louange chauffe, allez, on met les lunettes solaires, parce qu'il est temps de faire son travail. Comme nous montions au lieu de prière, c'est le lieu de prière qui rend l'église un feu, c'est le lieu de prière qui facilite le ministère, c'est le lieu de prière qui rend la louange facile, c'est le lieu de prière qui attire les gens à l'heure à l'église, et quand l'église perd la prière, perd l'habitude du lieu de prière. Je ne parle pas seulement de prier, mais l'habitude où la prière devient une priorité. Oui, frère, nous allons critiquer, mais prions d'abord. Et nous lions tout esprit de critique. Frère, tu voulais dire non, c'est bon, le Seigneur est merveilleux. Amen. Comme nous allions au lieu de prière, l'apôtre Paul avait compris que la force, c'est le lieu de prière. Je vais vous dire une vérité. Le diable n'a pas peur d'une grande église, le diable a peur d'une église qui prie. Amen. Je vais répéter. Le diable n'a pas peur d'une grande église, le diable a peur d'une église qui prie. Lorsque vous ne priez pas, le diable peut faire grandir votre église. Le diable peut vous bénir parce qu'il est certain que tout le monde qui est avec vous, la plupart d'entre eux vont aller en enfer. Mais le diable a peur d'une église où le pasteur vit à genoux, d'une église où les diacres vivent à genoux, d'une église où les anciens vivent à genoux, d'une église où le ministère de louange vive à genoux. Parce que l'église devient alors une épée dans la bouche de Christ, une épée à double tranchant qui peut tailler au travers de la communauté les problèmes de drogue, les problèmes d'alcool, les problèmes de sexualité. L'église devient forte. L'église devient forte lorsque tous les responsables, même administrateurs, commencent à vivre à genoux. Le diable se moque des grosses églises. Le diable se moque des diplômes. Vous pouvez avoir un diplôme, maîtrise, doctorat en théologie. Le diable n'en a que faire. Le seul langage de commandement que le diable comprend, c'est le langage du lieu secret de la prière. C'est le langage qui a fléchi le genou depuis 5 heures du matin et qui peut lever les mains devant Dieu pour dire « Oh Dieu, interviens !» Le diable se moque de nos chants, de nos grosses prières devant des prières vides parce que ça fait tellement longtemps que nous étions absents de la présence de Dieu que même quand on ouvre la bouche pour dire « Seigneur », Dieu dit « What ? Tu es là ? Ça fait une semaine que je ne t'ai pas entendu. » Le lieu secret est tellement important et c'est là que je viens à ce que j'ai à dire parce que c'est le lieu qui permet de maintenir une atmosphère favorable au miracle. Une atmosphère favorable à la bénédiction, une atmosphère favorable au changement. Le lieu secret, l'apôtre Paul a compris quelque chose et toute son équipe, c'est que si vous voulez maintenir une atmosphère qui déclenche l'intervention de Dieu, il n'y a qu'un seul moyen de le maintenir. Ce n'est pas par le piano qui joue pendant la prédication, mais c'est par la prière. Voilà pourquoi le diable déteste les ministères d'intercession. Voilà pourquoi les intercesseurs sont attaqués. Pourquoi? Parce que le but du diable, c'est de voler la prière de l'Église. Quand l'Église perd la prière, elle a tout perdu. Ce matin, je suis venu vous parler comme un prophète de Dieu et j'ai de la révélation pour vous. Quand l'Église perd la prière, le diable va amener toutes sortes de distractions, des filles qui tombent enceintes, des scandales. Pendant que vous vous en occupez, vous perdez le feu de la prière. Quand vous vous réveillez, c'est 5 ans plus tard, fini. Comme nous allions au lieu de la prière permet de maintenir une atmosphère favorable. Et tout dans la vie est une question d'atmosphère. Permettez-moi de vous donner une définition de l'atmosphère. L'atmosphère, telle que connue scientifiquement, est une couche gazeuse qui entoure de toutes parts, dans les hauteurs d'environ 13 à 25 lieues le globe terrestre. C'est cette couche-là qui permet la vie d'avoir lieu sur Terre. L'atmosphère, on peut aussi parler de l'atmosphère comme étant l'air d'un pays, d'une ville, d'un lieu. On peut parler d'une atmosphère brumeuse. L'atmosphère, en fait, il y a différents types d'atmosphères. On peut parler de l'atmosphère aussi comme étant l'ambiance particulière d'un lieu. Et si l'atmosphère n'est pas possible, la vie en elle-même n'est pas possible. Donc l'atmosphère est importante parce que elle nous permet d'avoir l'air que nous respirons. Elle nous protège des rayons qui viennent du soleil et elle nous permet de fonctionner. De la même façon, spirituellement, l'atmosphère qu'on maintient dans l'Église décide de ce que l'Église devient. L'atmosphère que vous maintenez dans votre vie décide de ce que vous devenez. Si vous prenez des notes, je vous prie de prendre note maintenant. La plus grande bataille actuellement dans le monde, physique et dans le monde spirituel, c'est la bataille du contrôle de l'atmosphère. Quiconque contrôle l'atmosphère détermine ce que toi et moi nous devenons. La plus grande bataille dans cette église, c'est le contrôle de l'atmosphère. Voilà pourquoi le Seigneur m'envoie te dire, change ton atmosphère. La plus grande bataille, c'est le contrôle de l'atmosphère. Celui qui contrôle l'atmosphère d'un pays, contrôle le pays. Celui qui contrôle l'atmosphère d'une ville, contrôle la ville. Celui qui contrôle l'atmosphère d'une église, contrôle l'église. Parfois, vous pensez que c'est Jésus qui contrôle. Non. Quelqu'un d'autre dans l'atmosphère est en train de contrôler la louange pendant qu'on chante ici devant. Vous sentez que le culte est lourd. Et vous regardez dans la salle, tout le monde chante. Tout le monde dit Dieu, mais tout le monde ne chante pas le même Dieu que nous. Quelqu'un contrôle l'atmosphère. Ce matin, je suis venu pour qu'on lui casse le bras. L'atmosphère en elle-même est créatrice. Elle détermine notre niveau d'action et d'efficacité. L'atmosphère libère ou emprisonne une personne. Tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi je vous emmène lentement. Suivez-moi bien. L'atmosphère libère ou emprisonne le potentiel. En d'autres termes, nous sommes le produit direct de l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Nous sommes donc affectés par l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Papa Samy, vous êtes prophète? Non, n'est-ce pas? Supposons que nous prenions un poisson et vous voyez le poisson rentrer par la porte. Vous voyez le poisson. Est-ce que vous pouvez prophétiser? Qu'est-ce que vous allez prophétiser? Quelqu'un? Vous allez prophétiser que le poisson va mourir parce qu'il n'est pas dans la bonne atmosphère. Frère Jean-Marc, vous pouvez venir? J'aimerais que vous puissiez saisir dans l'esprit ce que je vous annonce de la part de Dieu. Si vous voyez un poisson ici, même si on vous dit que le poisson est congolais, non, amenez-moi les choses. Merci. Si on vous annonce que le poisson est congolais, qu'est-ce que vous allez prophétiser? Qu'il va? Pourquoi il va mourir? Il n'est pas dans son atmosphère. L'Église et le chrétien a été créé pour vivre dans une certaine atmosphère. Merci, j'espère qu'elle est encore chaude. Voilà, ça c'est chaud, froid. Ça tu tiens sous, si c'est possible. Alors je vous montre quelque chose. Selon les lois de la physique, ce tissu est comment? Bon, à part d'être blanc. Il est sec. Je prends les tissus, pardonne-moi mon frère, je le trempe dans l'atmosphère. Qu'est-ce que le tissu devient? Il prend les caractéristiques de l'atmosphère dans laquelle il a été plongé. Même si le tissu est rempli d'onction, il va être mouillé. Même si le tissu est fâché, il va être mouillé. Votre problème est le problème de l'atmosphère dans laquelle vous vivez. Votre problème est le problème de l'atmosphère. Dès que le tissu a été trempé, il a pris les caractéristiques de l'atmosphère dans laquelle il a été trempé. Mais je vais vous dire quelque chose de merveilleux. C'est que le tissu a pris les caractéristiques de l'eau, mais le tissu n'est pas devenu l'eau. Bien-aimé, Dieu peut te sortir de l'atmosphère dans laquelle tu vis. Peut-être que tu vis dans une atmosphère de vol, mais tu n'es pas un voleur. On peut te sortir de là au nom de Jésus. Ici. J'espère que ça va fonctionner. Bon, c'est supposé fonctionner, prendre la couleur. Ça marche pas. Ça sent bon, hein, le café. Si vous regardez, bon, ce n'est plus chaud. Ils ont dû me chauffer en arrivant. Mais normalement, si c'était du thé, qu'est-ce que le thé va faire? Hein? c'est en train de changer. Mais remarquez que pour que ça change, ça a pris un certain temps. C'est là que nous allons arriver au cœur de ce que nous voulons dire. C'est que on a injecté un certain élément dans l'atmosphère. L'atmosphère a commencé à changer. Mais moi, dans mon incrédulité, je regardais, je dis, il n'y a rien qui change. Or, les lois de la physique disent que nous pouvons affecter l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Nous pouvons changer l'atmosphère dans laquelle nous vivons. Le problème de la plupart d'entre nous, c'est l'atmosphère. Et là, je vais tirer une conclusion pour aller dans ce que je veux dire ce matin. C'est que l'atmosphère en elle-même... Merci, mon frère. L'atmosphère en elle-même... Et là, je sens que j'ai votre attention maintenant, vous me suivez. L'atmosphère en lui-même est importante. Parce que quand une atmosphère est maintenue pendant un certain temps dans un lieu, l'atmosphère aura pour résultante de créer un climat. Voilà pourquoi on parle de climat tropical. De climat comment encore ? Équatorial, climat tempéré, climat spirituel. Et ce climat-là, lorsqu'on le maintient, le climat a pour effet de créer l'écosystème. Et les trois relations sont importantes. C'est que lorsque nous laissons une certaine atmosphère au-dessus de nous, cette atmosphère-là crée le climat dans lequel chacun d'entre nous allons vivre. Certains vivent sous le climat de la pauvreté. Le problème, ce n'est pas le climat, c'est l'atmosphère. Et là, j'en viens à ce que je voulais dire. L'apôtre Paul est en train de faire l'évangélisation à Philippe. Et pendant qu'il est en train de faire l'évangélisation avec son équipe, une femme qui semblait être animée d'un esprit bon s'est joint à eux. Parce que jusqu'à ce qu'on sache que cette femme est animée d'un autre esprit, personne ne pouvait savoir dans quel camp il était. Et comme nous sommes assis dans l'église, bien-aimé, je ne sais pas dans quel camp tu es. Nous levons tous les mains, nous chantons tous, mais je ne sais pas dans quel camp tu es. Cette femme s'est jointe à eux. Et elle a commencé à annoncer un message qui leur était favorable. Sauf que l'apôtre Paul était habitué à l'atmosphère du lieu de prière. Cette femme était animée d'un esprit de Python. Bien-aimé, je vous dis, faites attention. Quand quelqu'un n'est pas établi dans l'église pour vous amener une prophétie, qu'il vous amène, notez la prophétie, amenez à votre responsable spirituel. Cette femme était animée d'un esprit de Python et elle se joint à l'équipe. Il y a différentes raisons pour lesquelles les gens se joignent à une église. Les gens peuvent se joindre parce qu'ils cherchent une femme, parce qu'il y a des belles femmes dans l'église. Alors ils se joignent à l'église. Il y en a qui se joignent pour des raisons économiques. Il y en a qui se joignent parce qu'ils ont cru dans le Seigneur. Et il y en a qui se joignent parce qu'ils sont animés dans notre esprit. Ils parlent le même langage que nous, chantent le même chant que nous, mais ils ne sont pas animés du même esprit. Ils amènent une atmosphère différente. Et cette femme vient se joindre à l'équipe et par esprit d'association commence à prophétiser. Et elle dit, ces hommes sont des serviteurs de Dieu, ils vous annoncent les voies du Seigneur. Et le message semble correct, mais l'esprit derrière commence à toucher à l'atmosphère de l'apôtre Paul. Le grand problème des chrétiens, c'est que nous ne sommes pas méfiants. Un frère, vous a, à chaque fois que la personne vous visite, vous n'êtes pas en paix. Mais emmenez-le dans la prière. Seigneur, sonde-le. Montre-moi qui est cet homme. Montre-moi qui est cette femme. Montre-moi qui sont ces gens avec qui je traite. Seigneur, montre-moi la vérité. Que ces hommes ressortent tels qu'ils sont. Le manque de méfiance a fait que beaucoup n'ont pas prospéré là où ils devaient prospérer. Et cette femme était animée de l'esprit de Python. Et pourtant, le message qu'elle disait était correct. Et lorsque quelqu'un des sciences occultes se joint dans une église, il va toujours chercher une position d'influence où il peut influencer. Et cette femme se joint à eux et pendant qu'ils sont en train de faire, elle fait la même chose qu'eux. Parfois, il peut arriver que les responsables de l'église disent à telle personne, « Toi, on ne veut plus de toi ici. » Alors, ça va vous voir, « Non, dans cette église-là, on n'aime pas les gens, mais vous ne savez pas ce que votre responsable a vu. » Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Elle suit l'apôtre Paul et la Bible dit qu'elle est animée de l'esprit de Python. La particularité du Python en lui-même comme animal, c'est que c'est un animal qui vient et qui s'entoure autour de sa victime. Elle s'entoure autour de la victime et tranquillement, elle commence à serrer la victime. Elle serre la victime. Elle serre la victime. Et remarquez que le python ne va pas tuer la victime en 2 minutes. Elle va prendre son temps. Le diable peut prendre des années pour tuer une église. Mais tranquillement, il va s'enrouler autour d'elle. Il va s'enrouler autour d'elle. Tranquillement, il va créer la mort des ministères. Tranquillement, il va créer la mort des serviteurs de Dieu. Tranquillement, il va créer la mort des dons spirituels. L'esprit de python. Tranquillement, lorsque quelqu'un est animé de l'esprit de python, il va s'arranger d'être proche des responsables, proche du pasteur, proche du leadership, de manière à pouvoir bien s'enrouler. La particularité, c'est que le python tue par asphyxie. En d'autres termes, il tue l'atmosphère. Il tue l'atmosphère. Et quelqu'un autour de toi est en train de tuer ton atmosphère. Tu l'appelles un ami, mais il tue ton atmosphère. Et le python s'enroule autour de sa victime. Quand le python s'enroule autour de la victime, ça prend du temps. Le python peut prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures. Nous allons aller tranquillement. Même si vous êtes un cheval, il va vous avaler. Deuxième particularité, le python ne broie jamais les os. Voilà pourquoi il est difficile à détecter spirituellement. Parce qu'il va arriver dans l'église et il va respecter la structure. Vous êtes pasteur, il vous laisse pasteur. Mais il tue les ministères. Tout à coup, vous rentrez dans l'église, tout est lourd. Vous semblez combattre contre un nuage invisible. Non, c'est l'esprit de python qui travaille. Tout à coup, dans votre vie, tout est lourd. Depuis que vous avez commencé une relation, une amitié avec quelqu'un, tout est lourd. Il y a quelqu'un qui est en train de vous faire suffoquer spirituellement. Aspirez tranquillement. On vous garde comme chef au travail parce que le python doit respecter la structure. Mais tout le reste, on vous enlève les honneurs qui viennent avec. Certains d'entre vous, vous êtes ici, vous avez perdu le contrôle sur vos enfants parce qu'on s'est enroulé autour d'eux par la musique. Vous aviez dit, non, comme ça, il va être contemporain, comme les jeunes de son époque. C'était l'esprit de python qui travaille au travers beaucoup du hip-hop, qui s'enroule autour des enfants. Un jour, vous regardez l'enfant, on l'a reprogrammé. L'enfant qui ne t'insultait pas commence à t'insulter. L'enfant qui ne se rébellait pas commence à se rébeller. Pourquoi ? Parce que vous avez permis qu'on change l'atmosphère dans laquelle il vit. Quand on vous dit « amène l'enfant à l'église », c'est pour que l'enfant soit dans une certaine atmosphère qui favorise son épanouissement. Et quand l'esprit de python commence à travailler, et malheureusement ce matin, je dois traiter avec ta vie, mais je dois traiter aussi avec la vie de l'église, c'est que vous allez voir tranquillement, vous êtes assis dans l'église. Tout à coup, vous avez envie de quitter l'église. Vous ne savez pas pourquoi, mais c'est un esprit d'oppression. Tout devient lourd, tout devient mourant. Et si les leaders et les responsables ne sont pas capables de détecter ce qui se passe, parce que l'apôtre Paul a senti que quelque chose a changé dans l'atmosphère. Et parfois, vous ne savez pas qu'est-ce qui a changé, mais vous savez que quelque chose, quelque part, n'est pas normal. Quand tout le monde dans l'église se met à se révéler, que l'esprit de python commence à travailler, et tout le monde pense que si je construis ça, si je m'implique à l'église, c'est parce que je travaille pour M. Kabouya. Mon ami, vous êtes animé de l'esprit de python. Au nom de Jésus, je te fais reculer ce matin. L'esprit de python s'enroule autour des enfants de Dieu. Et vous allez voir un frère qui était en feu, zélé dans l'église en train de travailler. Les agents de python s'en vont le voir et disent, toi, tu es impliqué dans l'église, mais tu travailles pour l'homme, tu fais le culte de la personnalité. Fais comme l'apôtre Paul, au nom de Jésus, sors. Être chrétien ne veut pas dire que nous devons tout accepter et être poli tout le temps. Il y a des moments où vous devez prendre l'autorité au nom de Jésus. Et quand cet esprit s'enroule, comme je disais tout à l'heure, il va commencer par tuer le ministère de louange. Il va commencer par contester l'esprit prophétique et la manifestation des dons spirituels dans ta vie et dans l'église. Commencer à dire que non, on n'a pas le temps dans le culte. Le culte, c'est un esprit qui travaille. Il va travailler dans la politesse. Si ça lui prend 5 ans, en 5 ans, il va vous emmener là. Le jour où vous ouvrez les yeux, l'église est vide. Quand il travaille dans ta vie, c'est la même chose. Tranquillement, tu as juste envie de dépenser de l'argent. Parce qu'on s'enroule autour de tes finances. On s'enroule autour de tes finances. Quand tu ouvres les yeux, tu es pauvre. L'apôtre Paul a détecté que quelque chose a changé. Parce qu'il était habitué au lieu de prière. Bien-aimés, nous avons l'autorité dans le nom de Jésus. Mais si nous ne nous habituons pas à maintenir le lieu de prière, vous ne saurez jamais quand l'atmosphère a changé. Vous ne saurez jamais. Nous sommes devenus une religion ou des églises qui tendent, je veux créer une expression, à sorcifier les pasteurs et les serviteurs de Dieu. C'est-à-dire que comme à l'époque, on allait voir les sorciers, on apportait de l'argent, et puis ils pouvaient nous dire tout. Aujourd'hui, bon, ben, on va apporter tout au pasteur. Non, le chrétien a la responsabilité sur sa propre vie. Il y a quelqu'un, quelque part, qui est en train de s'enrouler autour de toi. Il y a une situation qui s'enroule. Et tranquillement, les manifestations sont des dépressions chroniques. Tout d'un coup, tu te lèves le matin, tu es juste dépressif. Tu ne sais pas pourquoi. Tu t'es assis dans le métro, normalement. Tout d'un coup, tu es juste dépressif. Soudainement, tu as juste envie de t'isoler. Soudainement, tu as juste envie de ne plus venir à l'église. Soudainement, tu as juste envie de ne plus aller travailler. Tu as envie de rien. C'est parce qu'on s'enroule autour de toi. Je vais être simple ce matin et vous dire les choses telles que le Seigneur me les a dites. On s'enroule autour de toi et tranquillement, on t'étouffe. Tranquillement, on t'étouffe. Ce sentiment d'être apprécié, ce sentiment d'être suivi, là, qu'on te suit. Cette femme-là les a vus et qu'est-ce qu'elle a commencé à faire? À les suivre. La filature spirituelle. À les suivre. À les suivre. Jusqu'à un moment donné, elle est entrée. Et comme l'apôtre Paul était vigilant, il a détecté que quelque chose a changé dans son atmosphère. J'aimerais dire ce matin, bien-aimé, que quelque chose a changé dans ton atmosphère depuis un certain temps. Tu priais bien, qu'est-ce qui a changé ton atmosphère? Tu étais une personne qui donnait la dîme à l'église, tu étais une personne qui était zélée, mais qu'est-ce qui a fait que ton atmosphère a changé? Depuis quand? Retourne en arrière, regarde. J'aimerais vous dire, donner 2-3 points et terminer ce matin. Tu dois te battre pour regagner le contrôle de ton atmosphère. Dis à quelqu'un, tu dois te battre. Oh, ça, ce n'est pas un message où on crie, c'est un message où on écoute. Dis à quelqu'un, tu dois te battre. Notre travail en nous, en 2012, c'est de nous battre pour regagner l'atmosphère et maintenir l'atmosphère. Une atmosphère propice à la croissance. Une atmosphère propice au miracle. Une atmosphère propice. C'est pour cela qu'il y a 2 dimanches, quand le pasteur prêchait, vous avez senti à la fin, l'atmosphère a changé. Tout le monde était en train de crier. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un effet de l'Esprit de Dieu dans l'atmosphère. Et on sentait que quelque chose était sur le bord d'éclater dans l'église. C'est la même chose quand on a une convention. Parce que nous prions beaucoup, l'atmosphère change. Dis à quelqu'un, change ton atmosphère. La plupart d'entre nous essayons de changer le climat. Le problème n'est pas dans le climat. Quand tu changes d'église, tu changes de climat, mais pas d'atmosphère. La Bible dit ceci dans le livre de la Genèse. Comment changer l'atmosphère? Êtes-vous béni ce matin? La Bible dit ceci dans le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe. En d'autres termes, l'atmosphère n'était pas propice à la vie. Dieu était face à une atmosphère chaotique. Et la Bible dit que Dieu dit, tu dois parler à ton atmosphère. Tu dois commander une atmosphère de réussite. Tu dois commander une atmosphère de prospérité. Tu dois commander une atmosphère de miracle. Tu dois commander une atmosphère de libération. Tu dois commander une atmosphère de changement autour de toi. Tant et aussi longtemps que tu te tais, ton atmosphère est contrôlée. Même si tu rentres à la maison, ton mari est violent, tu peux commander avant qu'il n'arrive le calme. Vent, tais-toi. Marie, tais-toi. Enfant, sois guéri. Et quand Dieu vous a établi dans la maison comme parent, vous avez l'autorité sur l'atmosphère de votre maison. Ce n'est pas 50 Cent ou Tupac ou Bob Marley
ou Michael Jackson qui commande ta maison, mais c'est ta bouche en tant que sacrificateur. C'est ta bouche en tant que parent qui commande l'atmosphère, qui commande la journée. Dieu faisant face au chaos, Dieu ne s'est pas simplement assis et a commencé à pleurer, mais Dieu a commandé que la lumière soit. Il est temps de commander certaines situations dans l'église, que la lumière soit. Il est temps de commander dans ta vie, dans certaines situations, que la lumière soit. Il est temps de commander dans tes finances, que la lumière soit. Il est temps de commander dans ta santé, que la lumière soit. Il est temps d'avoir un langage de commandement. Commande à ton atmosphère. Commande à ton atmosphère. Dites à ton atmosphère ce qu'elle doit être. Dites à tes circonstances ce qu'ils doivent être. Voilà pourquoi la Bible dit, en réalité, le psalmiste se lève le matin. Il dit, je dévance l'aurore. Et je commande à mon atmosphère en disant, j'espère en tes promesses. J'espère avoir une belle journée. J'aurai une belle journée. J'aurai peut-être des mauvaises circonstances dans une belle journée. Mais à la fin, j'aurai une belle journée. Je contrôle mon atmosphère. Je contrôle mon atmosphère. Je contrôle mon atmosphère. Bien-aimés, est-ce que vous me saisissez ce matin? Dieu a commandé. L'atmosphère n'était pas propice à la vie. L'atmosphère dans ton travail n'est peut-être pas propice à ta promotion, mais tu peux commander à l'atmosphère de changer. L'atmosphère, c'est la partie qu'on ne voit pas, mais qui nous affecte. Commande à ton atmosphère de changer. L'apôtre Paul voit cette femme. Sans que l'atmosphère change, il ne demande pas la permission, il se retourne et dit « Sors ». Pierre vient voir Jésus. « Qui dit-on que je suis ?»« Tu es le Fils de Dieu. » Le même Pierre se retourne, Jésus dit « Je vais à la croix. » Et Pierre dit « N'en déplaise Seigneur, tu n'iras pas à la croix. » Jésus sent que cette même personne, entre deux paroles, l'atmosphère a... Il dit arrière de moi. Ce n'est pas parce que quelqu'un vous a donné une bonne parole hier, ce n'est pas parce qu'il était votre ami hier que quand vous avez acheté la maison, il est votre ami. Il y a des moments où il dit arrière de moi. Votre responsabilité, c'est de maintenir l'atmosphère. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Remarquez que quand la lumière est, Dieu ne s'arrête pas là. Parce que maintenir une atmosphère qui vous amène à réussir et à prospérer est un travail constant. Pendant 7 jours, Dieu dit, il est temps que tu sois persévérant à maintenir l'atmosphère, à changer ton atmosphère, jusqu'à ce que l'atmosphère crée le climat dans lequel tu peux prospérer. Ce n'est pas par 2-3 petites prières, mais c'est pendant qu'on va préparer le jeûne de 21 jours. Pendant 21 jours, tu mitailles ton atmosphère en disant, lâche-moi, j'ai besoin de percer et rentrer dans une autre dimension. Jusqu'à ce que le climat change. Les dinosaures sont morts parce que l'atmosphère a changé. Il y a des dinosaures dans ta vie. Il y a des dinosaures dans ta vie. Et tu as besoin de changer ton atmosphère. Tu as besoin de changer l'atmosphère. Des gens qui te parlent au travail, amène-le dans les lieux secrets de la prière. Amène-le et commande. Commande à partir de là. Lorsque tu commandes à ton atmosphère, la Bible déclare dans le livre de l'Apocalypse qu'ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et du sang de l'agneau. Une notion qui est très absente de l'église, la notion du sang de l'agneau. Amène ton atmosphère dans la présence de Dieu. Seigneur, je mets le sang de Jésus sur l'atmosphère au travail. Je mets le sang de Jésus sur l'atmosphère de mes enfants. Ils vivent maintenant ton atmosphère. Le sang de Jésus recouvre cette atmosphère et fait fondre toutes les pluies acides spirituelles. Parce que parfois, l'atmosphère est polluée. l'atmosphère est propice au péché dans la vie de tes enfants, Seigneur, j'appelle le sang de Jésus. J'invoque le sang de Jésus. J'invoque le sang de la libération. J'invoque le sang du changement. J'invoque le sang du pardon. Seigneur, que ton sang les couvre. Voilà pourquoi on a des ministères comme SOS Famille. Change ton atmosphère. Bien-aimé, tu as assez pleuré en 2011. Maintenant, en 2012, Dieu te dit que tu peux changer l'atmosphère. Peut-être que oui, tu es trop âgé, personne ne va t'embaucher. C'est vrai. Mais Dieu peut t'aider, si tu vas dans le lieu secret, à te donner une idée d'affaires. Et tu peux devenir aussi riche, si pas riche, si pas plus riche qu'avant. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas fini. Mais tant et aussi longtemps que tu t'occupes de ton climat, le diable est peu intéressé. Regardez quand on fait un culte. Vous savez, quand les gens crient ici, chantent, pleurent, Maman Monique vient devant, et puis il fait son houhouhou. Ça, c'est le climat. L'atmosphère, c'est ce qui reste spirituellement dans l'église, sur l'église et sur les membres de l'église quand on va à la maison. C'est ce qui nous accompagne. Et ça, c'est difficile à changer. C'est ce qui fait que tu as hâte de venir aux réunions. C'est ce qui fait que tu viens à l'heure à cause de l'atmosphère. C'est ce qui fait que certaines personnes, lorsque le froid arrive, ils vont dans le sud à cause de l'atmosphère. Et si vous êtes capable de maintenir cette atmosphère dans l'église, automatiquement les gens commencent à prospérer. Automatiquement vous commencez à enfanter des millionnaires. Automatiquement les ministères commencent à avancer. Quand nous pouvons être capables de changer l'atmosphère. Voilà pourquoi le diable s'arrange que l'église se préoccupe du climat. Pendant qu'il détient l'atmosphère. Vous avez eu un bon culte un dimanche? Le dimanche suivant, le culte est mauvais. Vous avez eu un bon culte un dimanche? Le dimanche... Non, c'est le climat. Il faut aller dans l'atmosphère. Changer l'atmosphère. Changer l'atmosphère. Changer l'atmosphère. Et ce matin, j'aimerais juste vous demander de vous lever avec moi et nous allons prier ensemble rapidement.